C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Bras.
Bonjour, faites un test. Essayez de compter le nombre de publicités qui vous sollicitent en une journée. Dans la rue, dans les transports, sur Internet ou à la radio. Vous verrez, vous serez surpris. En France, chaque jour, selon différents cabinets d'études, nous observons, souvent sans le vouloir, près de 1200 publicités. Au-delà de la pollution visuelle, ces stimulations nous incitent à la surconsommation et à une vision du monde basée sur l'insatisfaction. Un rapport publié par 22 associations jette un pavé dans la mare. On en parle dans C'est pas du vent, mais tout d'abord, quelques nouvelles de l'océan.
C'est pas du vent sur RFI.
La Semaine mondiale de l'océan, c'est l'occasion de vous emmener faire un petit tour dans le magnifique lagon de la Nouvelle-Calédonie. C'est le plus long ensemble corallien continu du monde, qui s'étale sur près de 1600 km. Il abrite des centaines d'espèces de coraux et près de 1600 espèces de poissons. Une biodiversité extraordinaire que nous avons eu la chance de voir de près en plongeant dans l'eau turquoise. Mais pour l'instant, nous restons en surface pour comprendre comment ce joyau naturel est protégé. Christophe Chevillon, vous êtes chef du service de la mer et responsable de la protection du lagon à la direction de l'environnement de Nouvelle-Calédonie. Alors là, on s'apprête à découvrir la biodiversité marine qui est absolument incroyable ici. On va faire quel parcours pour aller voir quoi ?
En fait, on va vous faire traverser quasiment tout le lagon en face de Nouméa, hein, donc la capitale. Et on va vous présenter différents écosystèmes, différents types d'îlots, différents types d'aires marines protégées. Et j'espère qu'on aura aussi l'occasion de vous montrer la faune marine exceptionnelle.
Parce qu'ici, c'est vraiment exceptionnel.
Bien sûr, et ce n'est pas pour rien que une partie en tout cas des lagons et récifs de Nouvelle-Calédonie ont été inscrits sur la liste de l'UNESCO patrimoine mondial.
Donc on y va là. C'est quoi notre première étape ?
La première étape, ça va être un petit îlot assez sauvage qui accueille en été une colonie de sternes de Dugald pour la reproduction et qui représente 10% de la population mondiale. Donc c'est un enjeu de conservation majeur. Donc on ferme cet îlot, en fait, on en fait une réserve intégrale saisonnière le temps de la reproduction de cette espèce.
Ça s'appelle l'îlot des goélands ?
Ça s'appelle l'île aux goélands et vous n'y verrez jamais un goéland.
Bon, ben on y va.
Alors l'île aux goélands, c'est une réserve intégrale saisonnière. Là, on arrive un petit peu tard puisque les oiseaux sont partis, donc on a réouvert l'îlot. Comme vous le voyez, c'est un tout petit îlot. Et cet îlot, il va accueillir jusqu'à plus de 5000 couples d'oiseaux, de sternes de Dugald. Et les petits vont être faits directement par terre. C'est-à-dire que c'est un animal qui ne fait pas de nid, qui ne fait pas de terrier. Donc les petits sont posés à même le sol. Et du coup, si les gens venaient ici, ils pourraient facilement les écraser.
Donc c'est un îlot comme il y en a, on peut dire quoi, des centaines au large de la Nouvelle-Calédonie. C'est l'une des particularités et ça reflète l'immense variété qu'il y a, notamment dans les aires marines protégées.
Oui, alors effectivement, dans les aires marines protégées, on a quatre statuts d'aires marines protégées. Réserve intégrale, accès totalement interdit. Réserve naturelle. Vous pouvez y aller, mais il faut laisser le moins de traces possible de votre passage. C'est un endroit dédié à la nature. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les aires gérées ou aires de gestion durable des ressources, où là, on essaye de concilier, si vous voulez, développement économique touristique avec des intérêts de conservation. C'est par exemple des îlots qui vont accueillir un hôtel ou un accueil à la journée avec des infrastructures. Et puis, on a les parcs marins, qui sont en fait les sites inscrits au patrimoine mondial. Donc là, on n'est plus tout à fait dans la même gamme parce que les aires marines protégées, c'est entre 1 et 17 hectares. Quand on arrive dans les parcs marins, on est entre 40 000 et plus de 300 000 hectares. Mais après, ce qui est intéressant, c'est que dans ce réseau d'aires marines protégées, on a à peu près tout ce qu'on peut trouver dans le lagon. C'est-à-dire qu'on a des récifs frangeants.
C'est-à-dire des récifs qui sont près
côtiers,
des côtes.
Voilà, récifs frangeants côtiers. On va avoir une plage, donc un morceau de littoral. On a des îlots. On a un pan entier de la grande barrière entre deux passes, donc de grands récifs. On va avoir des épaves, hein, des épaves qui ont été sabordées volontairement et qui font des récifs artificiels. Donc on a vraiment toute une diversité d'à peu près tout ce qu'on peut trouver comme écosystème, comme habitat dans le lagon. Et la diversité des habitats, la diversité des écosystèmes, c'est ce qui va attirer la richesse et ce qui va créer la biodiversité animale et même de flore.
Ah, qu'est-ce qui se passe là, Christophe ?
Contrôle, c'est des gens, en fait, on est dans une réserve naturelle, donc la chasse est interdite. Et c'est des gens qui sont tenus de chasseurs. Bon, ça ne veut pas dire qu'ils sont en train de chasser, hein. Ils sont peut-être en train de cariner leur bateau, de faire du palmas tuba.
Juste un petit contrôle. Vous n'êtes pas en train de pêcher ? Formidable. Vous savez que vous êtes dans une réserve là ? D'accord. Bonne journée.
Donc finalement, non, c'était une fausse alerte.
Oui, en fait, ils étaient en tenue de chasse, mais ils ne chassaient pas. Donc,
Mais sinon, s'ils avaient chassé, vous auriez fait quoi ?
Ah là, il y a un PV, quoi. Ouais. Alors ce qu'ils font des fois, c'est qu'ils lâchent les fusils. Là, ici, l'eau, elle est tellement transparente, on n'a même pas besoin de se mettre à l'eau. On voit tout de suite qu'au fond, il n'y a pas un fusil sous-marin. Mais ils font ça régulièrement, et les matelots, ils sont super entraînés. Et en général, au moment du contrôle, il y en a un qui saute à l'eau pour voir si dessous, il n'y a pas... Quand ils pêchent dans les réserves.
Au courant, il y a un navire qui est en train de se diffuser sur les ondes.
Ok, d'accord. Merci, au revoir.
Bonjour Jean-Pierre Gattuso.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche à l'Observatoire océanologique de Villefranche-sur-Mer et chercheur associé à l'IDRI. Vous êtes l'un des experts du GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, qui a publié un rapport que vous avez co-dirigé d'ailleurs sur l'océan et la cryosphère en septembre dernier. Alors on va tout d'abord, avant de réagir à ce reportage et d'expliquer... tout ce qu'il nous apprend, rappeler que l'océan est essentiel à l'équilibre de notre planète.
Oui, absolument. Et même si on n'habite pas à proximité des côtes, tout le monde sur la planète bénéficie des services fournis par l'océan. Car l'océan modère le changement climatique en absorbant une partie du gaz carbonique que l'on émet dans l'atmosphère, en stockant de la chaleur, ce qui limite le réchauffement de la planète et aussi l'effet de serre. L'océan, c'est 90% du volume habitable sur la planète. Il fournit une bonne partie des protéines qui sont consommées par l'homme. Et ces écosystèmes protègent les côtes de l'action destructrice des vagues et des houles. Et en termes d'économie, si l'océan était un pays, ça serait la 7e économie de la planète. Donc ça montre les bénéfices gigantesques fournis par l'océan.
Alors malheureusement, les impacts des activités sur les écosystèmes marins sont... on peut le dire, catastrophique.
Oui, enfin, les écosystèmes marins se sont fortement dégradés, surtout depuis les années 50, de plusieurs manières. Il y a des facteurs de stress qui sont globaux et qui sont liés aux émissions de gaz carbonique. L'océan absorbe plus de 90% de l'énergie excédentaire due à l'augmentation d'effet de serre, qui provient du rejet de CO2. Alors, ce qui est une bonne nouvelle, parce que l'atmosphère se réchauffe moins, mais par contre, l'océan, lui, se réchauffe. Il absorbe aussi le quart des émissions de CO2. Donc, si on n'avait pas un océan, on aurait plus de gaz carbonique dans l'atmosphère et des changements climatiques encore plus grands. Mais cette absorption du CO2 engendre une augmentation de l'acidité de l'eau de mer. Elle a augmenté de 30% depuis le début de la révolution industrielle. L'océan perd aussi de l'oxygène, son niveau monte. Donc, ça, c'est pour les facteurs globaux. Et il y a les facteurs locaux, la pollution, la dégradation des habitats et des écosystèmes. Donc, tout ça fait que le cocktail des facteurs de stress sur l'océan est vraiment assez inquiétant.
Mais la bonne nouvelle, parce qu'il y a des bonnes nouvelles malgré tout, c'est que selon une étude scientifique que vous avez publiée avec une quinzaine d'autres chercheurs en avril dernier dans la revue Nature, il serait possible de restaurer les océans en seulement 30 ans, écrivez-vous. Et vous mettez en avant de nombreux exemples, parce que finalement, quand on laisse la nature tranquille, elle se régénère.
Oui, quand on a commencé à faire une synthèse de la littérature et on a cherché tous les exemples d'amélioration des habitats et des écosystèmes, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de success stories, si je peux dire. Par exemple, on voit très bien que durant les deux dernières guerres mondiales, où la pêche s'est complètement arrêtée, eh bien, juste après ces deux guerres mondiales, les captures de pêche ont augmenté d'une manière considérable. Et donc, on voit que dès qu'on allège la pression sur ces écosystèmes, alors, en réduisant la pêche, mais aussi en réduisant la pollution, en introduisant des aires marines protégées. Donc, on a identifié comme ça des groupes de solutions qui permettent de reconstruire la vie marine à partir de ces histoires qui montrent qu'il y a la possibilité de reconstruire cette vie marine en 30 ans, en effet.
Alors après, le sujet, c'est comment est-ce qu'on fait pour laisser cette nature tranquille sans impacter l'économie humaine? Comment on diminue les pollutions? Comment est-ce que on limite la surpêche?
Il y a des solutions pour tout ça. On les connaît. On voit ce que fait l'Union européenne vis-à-vis de la gouvernance de la pêche, a donné d'excellents résultats. Il y a d'autres régions du monde où une meilleure gouvernance de la pêche, en réduisant l'effort de pêche, en fermant des zones à la pêche pour permettre la reconstitution des stocks, une vision écosystémique de la pêche. Donc tout ça, on sait faire. Mais il faut une bonne gouvernance. Il faut que cette gouvernance puisse être appliquée, ce qui est possible dans les eaux territoriales, mais qui ne l'est pas dans les eaux du large. Il faut une gouvernance de la haute mer. Et d'ailleurs, il y a un traité qui est en cours de discussion à l'échelle internationale pour la gouvernance de la haute mer. J'espère que ça arrivera au bout.
Alors, dans votre article, vous incitez les gouvernements justement à l'action en démontrant que la sauvegarde de l'océan, mais c'est rentable.
Absolument. On voit que, alors certains sont ébahis par les coûts qu'on mentionne. Hein, le coût de la protection, par exemple, il faudrait investir 10 à 20 milliards de dollars par an pour atteindre une protection de 50% de l'océan. Ça peut paraître beaucoup, mais je voudrais rappeler que du jour au lendemain, à la suite de la pandémie de Covid-19, et à juste titre, l'Union européenne a mobilisé 750 milliards d'euros. Et donc, on voit que quand l'enjeu est important, on sait mobiliser ce type de fonds. Par ailleurs, cet investissement dans la protection et la conservation de la vie marine est très rentable. On montre dans l'article que pour 1 $ investi, on en retire 10. 10 en termes d'écotourisme, 10 en termes de protection de la zone côtière, qui peut faire économiser aux assurances plus de 50 milliards de dollars par an. Et donc, on voit que cet investissement est extrêmement raisonnable et en fait, c'est un investissement qui est très astucieux d'un point de vue économique.
Alors, qu'est-ce qui bloque selon vous?
Ce qui bloque, c'est le fait qu'il faut une action à long terme et donc que la gouvernance de nos sociétés fait qu'on cherche un bénéfice à court terme. Par exemple, pour la pandémie, et encore une fois, à juste titre, on veut trouver un vaccin tout de suite, on veut agir rapidement parce qu'on a les moyens de solutionner ce problème très vite. Alors que pour reconstruire la vie marine, il faut un effort continu pendant plusieurs décennies. Pour solutionner le problème du changement climatique, il faut aussi une action continue sur le long terme. Il faut s'engager vers une transition énergétique qui est douloureuse, douloureuse parce que pendant 100 ans, on s'est habitué à utiliser une certaine source d'énergie, à avoir un certain mode de vie. Et donc, ces deux aspects, l'effort dans la durée et l'effort qui est absolument majeur de changer de mode de vie, fait qu'il y a d'énormes résistances. Les choses n'avancent pas vite.
Merci Jean-Pierre Gattuso.
Merci à vous.
En attendant que la préservation de l'océan devienne une priorité, ces écosystèmes continuent de se dégrader. Jean-Pierre Gattuso parlait à l'instant de l'impact des pollutions. Et il y en a une qui n'a cessé de prendre de l'ampleur ces dernières années, c'est la pollution plastique. Bonjour Julien Rochette.
Bonjour.
Vous êtes le coordinateur du programme Océan et Zones côtières à l'IDRI, l'Institut du développement durable et des relations internationales. Et vous venez de publier un rapport qui dresse un état des lieux de cette pollution, parce qu'on en entend beaucoup parler, mais on a du mal à avoir une vision claire. Alors, quelle est l'ampleur de cette pollution dans la mesure où on peut la quantifier? C'est compliqué quand même.
C'est évidemment pas simple à quantifier, mais globalement, on estime que la pollution plastique, c'est environ 8 millions de tonnes chaque année qui finissent dans les océans. Alors, du plastique qu'on peut voir sur nos côtes, les sacs d'emballage, les bouteilles, etc., qu'on voit sur le bord de mer, mais tout ça, finalement, c'est que la partie émergée de l'iceberg, puisque l'essentiel de cette pollution, elle ne se voit pas. L'océan reçoit ce qu'on appelle des micros et des nanoplastiques qui proviennent par exemple de certains produits d'hygiène ou également de nos machines à laver hein, qui rejettent les microplastiques de nos vêtements. Et ce qu'il faut également relever, c'est que cette pollution, elle provient pas uniquement des déchets qui sont rejetés directement en mer, mais également des rejets des fleuves. Et une étude récente met en lumière que l'essentiel de cette pollution plastique, elle provient de 10 fleuves, 8 en Asie et 2 en Afrique, en l'occurrence le Nil et le Niger. Donc c'est pas uniquement un problème qui concerne les pays côtiers ou les populations côtières, mais c'est un problème qui commence plus largement en amont des eaux continentales. Et au-delà de ces données factuelles, hein, 8 millions de tonnes de plastique, c'est évidemment un problème environnemental. On a tous en tête les images de tortues qui nagent dans des soupes de plastique ou les cotons-tiges qui flottent à la surface des océans. C'est également un problème en termes de santé, hein, puisqu'on retrouve le plastique dans toute la chaîne alimentaire. Et c'est un problème économique également qu'il ne faut pas négliger, puisque on dépense des millions d'euros chaque année en termes de nettoyage des plages ou également en termes d'impact. Le plastique a un impact sur les activités économiques comme le tourisme ou la pêche.
Alors, il y a plein d'initiatives, heureusement, hein, qui ont été prises ces dernières années pour limiter cette pollution, que ce soit au niveau de la société civile ou au niveau des États.
Oui, en effet, il y a plein d'initiatives en cours, hein, dans tous les pays du monde, des initiatives qui concernent nos vies quotidiennes. On a tous, la responsabilité en tant que citoyen de ne pas jeter des produits plastiques dans l'environnement. En tant que consommateur également, on peut essayer de privilégier des produits sans emballage plastique. Et puis, comme vous le dites, on voit également multiplier des initiatives des ONG, par exemple sur le nettoyage des plages, des initiatives de la part des scientifiques, hein, et puis également des engagements volontaires de, certaines entreprises. Et enfin, il y a évidemment de plus en plus d'initiatives des autorités publiques, des pays qui viennent interdire certains plastiques à usage unique, instaurer des taxes, améliorer la collecte, le tri, le recyclage, et plus largement développer une économie circulaire. Donc c'est vraiment actuellement une prolifération d'actions publiques et privées pour réduire l'utilisation des plastiques, prévenir leur rejet dans le milieu marin, promouvoir une économie circulaire, et puis également promouvoir l'innovation et la recherche pour trouver des alternatives à l'utilisation de ces plastiques.
Alors justement, il y a un projet d'accord international qui a été porté à l'origine par le Conseil des ministres des pays riverains de l'Arctique. Où en est ce projet et qu'en pensez-vous?
Alors oui, effectivement, au-delà des initiatives individuelles des États, il y a également des discussions pour renforcer la coopération internationale. Et c'est tant mieux parce que tous les États sont connectés dans la lutte contre le plastique. Si on prend l'exemple de la Méditerranée, qui est une mer semi-fermée, c'est vraiment si tous les pays s'engagent ensemble qu'on va pouvoir changer les choses. Et on a d'ailleurs déjà des règles qui existent à échelle internationale et à échelle régionale. Mais on n'a pas de traité international exclusivement et spécifiquement consacré à la question plastique. Et c'est ce qui pousse aujourd'hui certains États comme la Suède, le Danemark, la France aussi, ou l'Inde, par exemple, à plaider pour l'élaboration d'un accord international. Alors cet accord, il viserait notamment à mettre en place des objectifs communs en matière de réduction de la pollution plastique, à inciter les États à en mettre en œuvre des stratégies nationales ou à développer des mécanismes de financement. On peut toutefois se demander si c'est vraiment une bonne idée. D'abord parce qu'il existe, comme je le disais, de très nombreuses règles et que le problème, il porte plutôt sur leur mise en œuvre, davantage sur que le manque de règles en tant que tel. Et puis, sachant également à quel point une négociation internationale est longue et coûteuse, on le voit par exemple avec ce qui se passe aujourd'hui sur la négociation haute mer ou celle relative à la suppression des subventions à la pêche qui sont nuisibles à la biodiversité. Donc, à minima, je pense que vraiment, il faut renforcer les initiatives existantes, assurer la mise en œuvre des règles qui existent et puis peut-être aussi assurer une meilleure coordination et cohérence entre les différents outils qui existent aujourd'hui.
Oui, donc vous n'êtes pas trop favorable à cet accord, en fait, on l'a compris. Qu'est-ce qui serait le plus efficace selon vous? Sur quel type de pollution il faut lutter en priorité?
Alors, c'est difficile et les chercheurs, bien que certains chercheurs essayent de multiplier les études pour essayer de classifier par ordre d'importance les problèmes de l'océan. Alors, ces études sont extrêmement importantes et il y a eu notamment le rapport de l'IPBES, hein, qui met en lumière un certain nombre de choses justement sur les principaux problèmes de l'océan. Ce qu'il faut aussi voir, c'est que c'est un impact cumulé de toutes ces pollutions, de tous ces impacts qui posent aujourd'hui le problème de l'océan. Donc, ce que je veux dire, c'est que le plastique est un problème majeur, extrêmement important, dont il faut s'occuper. Mais ça ne doit pas être le seul domaine de coopération internationale. On a aujourd'hui des problèmes qui sont majeurs en termes de surexploitation des stocks de poissons. Donc, essayons de traiter tout ça de manière cohérente, globale, sans vraiment hiérarchiser, mais en tout cas, ne pas oublier les problèmes que sont, par exemple, la surexploitation des stocks ou la mauvaise gestion qui existe aujourd'hui en haute mer.
Oui, parce que la haute mer, hein, Jean-Pierre Gattuso en parlait aussi rapidement, en fait, c'est une zone de non-droit, il parlait de Far West.
Alors, il existe de très nombreuses règles en haute mer, mais aujourd'hui, on considère qu'elles sont incomplètes et elles ne sont pas à la hauteur des enjeux. Par exemple, chaque État peut créer des aires marines protégées, des réserves ou des parcs dans ses eaux territoriales. Aujourd'hui, il n'y a pas de mécanisme international qui permette de créer des aires marines protégées en haute mer. Donc, c'est un objectif de la négociation. Deuxième élément, la question des ressources marines génétiques, hein, qui est venue aussi dans l'actualité avec la pandémie. La haute mer abrite sans doute les médicaments de demain. Et aujourd'hui, l'extraction de ces ressources marines génétiques, elle est non régulée par le droit puisque c'est une activité nouvelle. Donc tout ça fait qu'il y a de nouveaux enjeux en haute mer et c'est la raison pour laquelle il va falloir les réguler à travers un futur accord international dont on espère qu'il pourra voir le jour l'année prochaine maintenant.
Merci Julien Rochette, votre rapport est à lire sur la page de l'IDRI,
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI. Des questions, des réactions? rendez-vous sur la page Facebook de l'émission.
Il y a un pays qui a pris des décisions récentes pour protéger ses écosystèmes marins, c'est le Sénégal. Bonjour Ibrahima Cissé.
Bonjour Anne.
Vous êtes responsable de la campagne Océan de Greenpeace Afrique. Alors le ministre sénégalais de la Pêche vient de rejeter les demandes de licence pour 52 nouveaux navires de pêche industrielle étrangers. J'imagine que vous vous réjouissez de cette décision.
Oui, nous pensons que on commence à aller dans le bon sens. Et nous pensons que c'est une très bonne décision qu'il a prise.
Alors, quel était l'enjeu ? C'était quoi ces licences demandées par ces navires de pêche industriels étrangers ?
En fait, c'est des navires de pêche étrangers qui essaient de trouver un moyen d'être sénégalisés et qui sont connus pour avoir été impliqués dans la pêche illégale, non réglementée, non déclarée, etc. Et qui ne sont pas des navires sénégalais parce qu'on sait que c'est des navires qui appartiennent à des Chinois. Donc, ce n'est pas pour stigmatiser la Chine, mais c'est pour dire ce qui est exactement. Ils essayaient de trouver un moyen de rentrer dans la flotte sénégalaise, alors qu'on sait tous que cela était faux.
Et cette décision du ministre, c'est le résultat d'une forte mobilisation de la société civile, qui d'ailleurs a été couronnée par une action sur 8 sites au Sénégal le week-end dernier, une opération masque rouge. Expliquez-nous ça, la mobilisation était très forte, hein, que ce soit de la part des pêcheurs artisanaux, des femmes transformeuses de poissons, des ONG.
Oui, parce qu'en fait, la mobilisation est très forte parce qu'il y a une coalition qui s'est mise en place. Parce que ce n'était pas acceptable. Pour une première fois dans l'histoire du Sénégal, le Sénégal est envahi par 52 navires et il est question de donner des licences à 52 navires. Ce n'est pas 52 pirogues. Alors que depuis 2012, le Sénégal a gelé l'octroi des autorisations pour la pêche artisanale.
Et donc là, vous pensez que ça va être efficace aussi pour les autres navires qui éventuellement pourraient s'inviter, si je puis dire, dans les eaux sénégalaises ? C'est un signal fort ?
Je pense que c'est un signal fort, mais il y a aussi des navires qui se sont déjà invités dans les eaux sénégalaises avec les ministres précédents. Et nous pensons que le ménage doit être fait aussi à ce niveau.
Et quand vous dites s'inviter avec les ministres précédents, ça veut dire quoi ?
Ça veut dire que les 3 dernières années, donc depuis le ministre Omar Gueye, suivi du ministre Aminata Mengendiaye à l'actuel ministre, il y a eu l'introduction frauduleuse de bateaux qui n'ont pas suivi la procédure normale pour intégrer la flotte sénégalaise. C'est pour ça qu'on demande la publication de la liste de tous les bateaux qui pêchent au Sénégal avec la date d'octroi des licences, les types de pêche qui sont autorisés à faire, etc. Et ce qu'on ne parvient pas à voir jusqu'à présent.
Mais vous n'allez pas lâcher ?
Non, non. Loin de là, on n'y pense même pas.
Parce qu'en fait, ce qui est en jeu, évidemment, c'est la façon dont on se partage les ressources halieutiques.
Vous savez, nos pays sont très faibles quand il s'agit de faire face à ces agressions en général. Donc, la question que l'on pose, les failles qui sont dans la réglementation, hein, parce que la commission est consultative. Cette approche, excusez-moi du terme colonial, où il y a quelqu'un qui peut décider en haut de l'avenir de millions de personnes, c'est ça qui doit changer. Et aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est plus de transparence et rendre fortes les institutions. Si les scientifiques donnent un avis, si les communautés donnent un avis, cet avis doit être important, doit être intégré. On ne doit pas lire cet avis et décider après de ce qu'on veut et dire que bon, je vais en tenir compte ou pas. Non, c'est l'avis de la commission, elle doit être d'application obligatoire. Parce que sinon, on est toujours dans les mêmes problèmes. À chaque fois qu'on a un nouveau ministre, c'est les mêmes problèmes qui reprennent. N'importe qui est ministre demain peut décider de, OK, il a trouvé un accord avec un pays ou avec un armement et décider d'octroyer des navires et dire que bon, la commission est consultative, c'est la loi qui le dit. Bien sûr qu'il y a beaucoup de contradictions parce que le Sénégal, dans sa constitution, dit que les ressources doivent être gérées au bénéfice des communautés et des populations. Vous voyez un peu, donc, ce qui se pose de manière beaucoup plus profonde, c'est le rejet de ces 52 licences. C'est dans le bon sens, donc nous saluons, nous disons que c'est très bien que le ministre ait compris et écouté, entendu, en tout cas, tous ceux qui lui ont dit que ce n'est pas possible. Et maintenant, dans un futur proche, il est important qu'on fasse la publication de la liste de tous les navires qui pêchent au Sénégal, la date d'octroi de ces licences, et les navires n'ayant pas droit à intégrer la flotte sénégalaise, ces navires doivent être retirés tout simplement.
Et cette décision du ministre Alioune Doye est une première. ce ministre a été nommé assez récemment, finalement. Est-ce que vous pensez que, du coup, c'est une nouvelle vision qui arrive et qui pourrait faire des émules dans la région?
En tout cas, on l'espère. Nous pensons qu'il a pris la bonne décision et qu'il va dans le bon sens. Maintenant, nous attendons les autres actes, les autres, en tout cas, décisions qu'il va prendre, parce que nous pensons que ça, c'est un début. C'est une bonne décision prise dans le bon sens qui doit être suivie d'autres décisions comme plus de transparence, la publication des listes des navires, mais également la revue des gaps qu'on a dans notre législation qui font aujourd'hui que tout cela est possible. Et enfin, l'appui aux différents secteurs qui réellement permettent de prendre des décisions sages et des décisions adaptées au contexte actuel du Sénégal.
Merci Ibrahima Cissé.
Merci Anne-Cécile.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
On voit bien que nos progrès techniques ont amené un problème grave, dont vont particulièrement souffrir sûrement les pays du Sud, mais les pays du Nord aussi, mais tous les pays actuellement ont des difficultés énormes à mettre en œuvre les techniques qui permettraient d'éviter les catastrophes. Et c'est une des grosses difficultés de notre espèce, c'est que justement, du fait de ce progrès, elle se croit tout permis, elle croit que tout est possible. Or, je pense qu'il faudra bien qu'on apprenne à se fixer des limites.
Pour nous écrire, c'est pas du vent, @rfi.fr.
Les dents, toutes en couleur et tout chanté. Publicité. Et lorsque je prends le métro, publicité. Je vois en suivant les stations, publicité. Une foule de produits laitiers, du beurre, du lait et du fromage, des petits Suisses et des yaourts.
La publicité et plus globalement la communication des entreprises sur l'espace public influence nos imaginaires, impacte l'environnement et le jeu démocratique. 22 associations soutenues par 3 députés français viennent de publier un rapport intitulé « La pub consomme la planète ». Bonjour Mathilde Dupré.
Bonjour.
Vous êtes co-directrice de l'Institut Veblen. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer l'ampleur économique de la publicité? C'est colossal, ce sont des budgets extrêmement importants.
Alors le marché de la publicité et la communication commerciale à l'échelle internationale est effectivement un marché colossal et qui a tendance à augmenter chaque année. Rien qu'en France, l'ensemble des dépenses de communication s'élève à 46 milliards d'euros par an, avec 31 milliards qui sont ciblés directement sur des dépenses de communication en publicité et en marketing promotionnel, ce qui fait autant que l'ensemble des investissements privés en recherche et développement de la part des entreprises.
Et alors justement, vous avez pointé dans ce rapport le fait que les entreprises consacrent beaucoup d'argent à la publicité et à la communication, et finalement beaucoup moins qu'à la recherche et le développement.
En effet, aujourd'hui, les dépenses de publicité sont cruciales pour les entreprises. Il faut savoir que malgré sa taille, ce marché est en fait très concentré, puisque en France, moins de 1% des entreprises ont accès au marché publicitaire et quelques centaines d'entre elles en contrôlent 80%. On peut même dire que les 25 premiers annonceurs contrôlent un quart du marché avec des budgets moyens de campagne de 200 millions d'euros. Donc le groupe L'Oréal, par exemple, en 2015, c'était 7,4 milliards d'euros investis dans la publicité, soit presque 30% de son chiffre d'affaires. Et c'était 10 fois plus dans la publicité que les investissements dans la recherche, qui s'élevaient seulement à 3% du chiffre d'affaires, ce qui peut paraître surprenant pour une entreprise comme L'Oréal, dont on pourrait imaginer qu'elle mise beaucoup sur le développement de ses produits. Mais en réalité, elle mise 10 fois plus sur la promotion qu'elle fait de ses produits.
Alors, vous le disiez, en France, c'est seulement 1% des entreprises qui ont accès à la publicité, parce que finalement, ça coûte très cher, ces campagnes de pub, mais ce sont celles que l'on voit sur les espaces publics, et ça nourrit notre imaginaire, notre vision du monde, et en ce sens, ça a un impact sur nos consommations et même sur la surconsommation.
Alors, les entreprises, elles investissent beaucoup en publicité pour leur image de marque, parce qu'aujourd'hui, leur image de marque, c'est une part importante de la valeur de l'entreprise. Et effectivement, cela a tendance à augmenter la consommation, plus seulement en termes de nombre de consommateurs sur un marché, mais aussi en essayant d'accélérer le rythme de renouvellement des produits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la publicité participe à une forme de promotion d'une obsolescence stimulée pour encourager les consommateurs à remplacer les produits qui continuent à fonctionner, mais plus vite que ce dont ils n'auraient besoin.
Et vous donnez l'exemple des téléphones en disant qu'on remplace plus nos téléphones parce que justement, la publicité nous annonce qu'il y en a un nouveau qui vient de sortir.
Effectivement, on a observer une accélération du renouvellement des produits, et en téléphonie, c'est très marqué, avec des micro-ajustements qui sont présentés comme des ruptures technologiques. C'est une espèce de simulacre d'innovation qui est mis en scène par la publicité. Et donc, une étude de l'ADEME a montré en 2017 que finalement, 88% des téléphones portables sont remplacés alors qu'ils fonctionnent encore.
Et l'un des problèmes aussi, c'est que les entreprises qui ont les moyens de faire des campagnes de communication ne sont pas des publicités qui participent forcément au bien-être des populations, que ce soit l'impact environnemental, on pense au secteur automobile qui fait beaucoup de publicité, ou l'industrie agroalimentaire qui ne fait pas toujours la publicité de produits bons pour la santé.
En effet, aujourd'hui, le rôle de la communication commerciale dans le phénomène de surconsommation de masse, il est particulièrement problématique en ce qui concerne des produits qui sont nocifs pour l'environnement ou pour la santé publique. Et donc, on pense notamment à l'investissement en publicité sur les grosses voitures, les vols en avion ou des produits qui correspondent à de la malbouffe. Les associations qui sont spécialisées sur chacun de ces secteurs mettent vraiment l'accent dessus. Par exemple, le secteur automobile est régulièrement en France le premier investisseur publicitaire. Et ce sont principalement des budgets qui sont consacrés à faire la promotion des véhicules de type SUV qui ont largement participé à l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre dans le transport routier. Donc en 2018, Renault, Peugeot, Citroën totalisaient à eux seuls plus d'1 milliard de dépenses publicitaires, ce qui est énorme.
Il y a des impacts que l'on pourrait qualifier aussi de psychologiques, parce que finalement, cette publicité, elle nous met dans un état d'insatisfaction permanente.
Alors, en effet, il y a des études qui ont conduit à montrer que ça pouvait alimenter le mal-être des consommateurs. Le fait de vouloir toujours stimuler, remplacer des produits par des produits plus nouveaux, plus tendances, plus rapides. Et donc, finalement, on a vu aussi que cette surconsommation, elle est souvent alimentée par du crédit à la consommation, du surendettement, que notamment aux États-Unis, les consommateurs ont souvent fait le choix d'augmenter leur temps de travail au détriment du temps de loisir pour pouvoir soutenir ce niveau de consommation. Donc, ça se traduit effectivement pas forcément par du bien-être au niveau des consommateurs.
Merci Mathilde Dupré.
Merci à vous.
Il n'y a pas que la publicité commerciale, il y a aussi ce qu'on appelle la publicité corporate. Bonjour Juliette Renaud.
Bonjour.
Vous êtes responsable de campagne sur la régulation des multinationales. Expliquez-nous tout d'abord ce que c'est, ce qu'on appelle la communication corporate, et en quoi ça a eu une influence presque sur la démocratie finalement des pays.
Donc la communication corporate, c'est toute la communication qui va être faite non pas sur un produit, mais vraiment sur l'entreprise elle-même, la communication institutionnelle, sur son image de marque, etc., mais qui n'est pas attachée à la vente d'un produit ou d'un service. Et aujourd'hui, cette communication corporate est vraiment très importante et elle est utilisée pour deux choses principalement. D'une part, pour essayer de faire taire les critiques sur leurs mauvaises pratiques, pour faire taire les dénonciations des violations qu'elles peuvent commettre, etc. Donc, elles vont développer des rapports développement durable qui promeuvent leurs bonnes pratiques, les actes de philanthropie qu'ils peuvent faire, etc. Mais aussi, ce qu'on voit dans les pays où elles peuvent s'implanter, que ce soit des entreprises minières, pétrolières ou autres, dans les zones où elles s'implotent, elles vont développer là vraiment même des panneaux publicitaires ou des publicités dans les journaux, mais pour vanter le fait que la mine, c'est une mine responsable, que l'exploitation pétrolière va apporter de l'emploi pour les populations locales. Et elles vont aussi faire du sponsoring, donc essayer de sponsoriser les clubs de foot, les hôpitaux, etc. Mais ça, en fait, c'est une manière pour elles d'acheter le silence des populations et des décideurs au niveau local, d'obtenir une certaine acceptabilité sociale de leur présence, en fait, et de leurs activités. Et surtout, et ça, c'est valable aussi dans les pays du Sud comme du Nord, elles essayent de montrer que l'autorégulation et les initiatives volontaires sont suffisantes, elles sont responsables et elles sont vertes par elles-mêmes. Et donc, il n'y a pas besoin de normes contraignantes pour les réguler.
Alors, vous citez des exemples, on pense notamment à Samsung. Est-ce que vous pouvez détailler ce cas ?
Alors, le cas de Samsung, donc, c'est un cas sur lequel travaillent nos partenaires Sherpa et Actionnet Peuple Solidaire, qui ont lancé un procès contre Samsung pour pratiques commerciales trompeuses, pour essayer de montrer que justement ce qui a marqué dans leur charte éthique et dans leurs engagements volontaires sur leur site Internet entre en complète contradiction avec ce qu'ils ont pu constater dans les usines de Samsung en Chine où il y a une exploitation des travailleurs. Et donc là, on a même une mise en examen de Samsung, donc ça crée un espoir, mais en fait, le cadre légal aujourd'hui ne nous permet pas réellement de réguler cette communication des multinationales et d'utiliser le cadre légal pour lutter contre leur impunité.
L'un des dangers, évidemment, c'est que les multinationales, du coup, servent un discours très travaillé, très étudié à l'opinion publique, et du coup, l'opinion publique y adhère sans vraiment s'en rendre compte. C'est pour ça que c'est presque un enjeu démocratique.
Il y a en effet une tentative d'orienter l'opinion publique sur des débats qu'il peut y avoir. Donc nous, par exemple, pendant le confinement, on s'est mobilisé contre Amazon par rapport aux conditions de travail dans les entrepôts et les risques sanitaires pour leurs travailleurs, mais finalement aussi pour les consommateurs. Et Amazon a répondu par une grande campagne de communication avec des publicités dans la plupart des journaux et en premier lieu dans les journaux qui dépendent davantage de la publicité. Puis, en fait, les publicités s'adaptent aux critiques, puis elles étaient tout d'abord sur la question des conditions sanitaires dans leurs entrepôts. Et après, plus tard, maintenant qu'on revient sur la question de la création de nouveaux entrepôts d'Amazon et les risques que ça représente pour les petits commerçants et les emplois au niveau local, on a Amazon qui change sa communication et qui communique sur le fait qu'il y a des petites entreprises qui vendent leurs produits sur Amazon, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas seulement l'opinion publique qu'on essaye de manipuler. La communication est utilisée vraiment à des fins de lobbying, donc pour influencer les décideurs, donc le gouvernement, les parlementaires. Et là, on peut prendre l'exemple de Total, qui, par exemple, au moment de la COP21 en 2015, avait lancé une énorme campagne de communication engagée pour une énergie meilleure, qui vantait notamment les bienfaits soi-disant du gaz comme énergie propre, énergie de transition. Et donc là, ils ont déployé cette campagne de communication dans 24 pays, dans les aéroports. Et clairement, le brief de l'agence de com auquel on a pu avoir accès mentionnait le fait que les personnes qui étaient visées, c'était les décideurs.
Et puis, il y a aussi un enjeu d'image auprès des actionnaires hein, pour ces entreprises, puisqu'on voit que dans plus en plus d'endroits, les actionnaires commencent à s'inquiéter un peu de l'intérêt de leurs investissements dans des multinationales polluantes. Et donc là, en donnant une bonne image, ça permet aussi de maintenir la valeur financière de l'entreprise.
Exactement. Nous, en tant qu'association, on essaye aussi de jouer finalement sur cette communication en s'attaquant au risque de réputation de l'entreprise. Nous, c'est quand même des négociations très sérieuses qu'on fait à chaque fois, que ce soit sur les violations des droits humains, les dommages environnementaux ou bien sûr la responsabilité dans le changement climatique. Et les entreprises vont simplement répondre par de la communication. Donc, ils vont embaucher des agences de communication pour essayer de redorer leur image, pour faire semblant. On peut reciter Total qui a, en effet, après le dépôt d'une résolution par certains actionnaires, a lui-même dit « mais non, mais vous inquiétez pas, de moi-même, je prends des engagements climat, donc il n'y a pas besoin de voter une résolution contraignante ou autre ». On peut aussi mentionner pendant toute la période là de confinement, ce que nous on dénonce comme du corona washing, c'est-à-dire qu'il y a des dons, etc. Toutes les entreprises d'un coup s'engagent dans l'effort de solidarité nationale. Il y a eu des choses concrètes qui ont été faites, on peut le reconnaître. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est quels sont les cadeaux cachés derrière. On a sorti un rapport la semaine dernière, Lobbying, l'épidémie cachée, qui montre comment publiquement les entreprises se montrent vertes et responsables. Et par derrière, En fait, leurs lobbies sont actifs pour démanteler les normes sociales et environnementales, etc. Et donc ça, ce qui se passe maintenant, en fait, on le voit aussi depuis des années, hors période de crise aussi.
Merci Juliette Renaud.
Merci à vous.
Des questions, des témoignages, des idées, écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
La question, une fois qu'on a dénoncé tout cela, évidemment, c'est que faire de ce rapport? Quelles propositions concrètes en découlent? Bonjour Renaud Fossard.
Bonjour.
Vous êtes chargé de programme au SPIM, qui est le programme sur le système publicitaire et l'influence des multinationales. Donc, il y a une vingtaine de propositions concrètes qui découlent de ce rapport que l'on peut classer peut-être en cinq familles. Tout d'abord, la première famille, c'est la lutte contre la pollution directe. Alors, qu'est-ce que vous proposez?
C'est ça, c'est la famille, on va dire, de l'urgence, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des dérives. Par exemple, les supports qui sont utilisés pour véhiculer la publicité, les espaces dans lesquels la publicité peut être omniprésente, qui parfois sont jugés illégitimes par le public, ou encore les produits sur lesquels cette publicité porte. Pour ce qui concerne les supports, des écrans vidéo aujourd'hui remplacent les panneaux d'affichage. Ils sont beaucoup plus polluants, énergivores, et puis ils agressent très sérieusement le cerveau reptilien des individus qui passent. On ne peut pas ne pas tourner la tête avec ces images qui changent. Et d'ailleurs, c'est fait pour ça. Mais au-delà des supports, on pourrait parler aussi des prospectus qui aujourd'hui consomment un quart du papier en France, alors que la consommation de papier réduit, les prospectus augmentent. Mais au-delà des supports, il y a aussi les produits sur lesquels porte la publicité. On dirait qu'il y a une forme d'exception pour le tabac et l'alcool qui seraient les seuls produits qui puissent être autorisés à être commercialisés mais pas autorisé à être l'objet de pub. Nous, on dit qu'il y a une variété de produits qui devraient aller dans ce sens, qu'il s'agisse des voitures, qu'il s'agisse de produits de mauvaise qualité nutritionnelle, ou encore, tout simplement, par exemple, les bouteilles d'eau en plastique. L'eau est acheminée par l'État, l'eau potable chez nous. Il faudrait peut-être interdire la publicité de ce type de produits. Puis, il y a la question des espaces. L'espace public, aujourd'hui, les bâches sur le patrimoine, les stades qui sont renommés par des noms de marques. Donc voilà, les supports, les produits sur lesquels elles portent, et puis enfin, les espaces sont pour nous des mesures d'urgence.
Alors du coup, vous prenez le fait de mettre des plafonds dans les budgets publicitaires des multinationales. Comment est-ce que c'est possible, ça, concrètement?
Alors, il y a plusieurs réformes économiques, c'en est l'une d'entre elles, mais là, on l'évoque vraiment pour les situations particulières ou des oligopoles de quelques deux, trois multinationales qui dominent sur un secteur. Typiquement, la téléphonie est connue comme telle. L'industrie de l'équipement sportif, Nike, Puma et Adidas. Ces multinationales-là ont de telles capacités de publicité, de marketing, de sponsoring qu'elles interdisent et elles font des barrières à l'entrée des concurrents. Cela dit, ce n'est pas la première mesure à laquelle on fait appel. Ça, c'est dans les cas d'oligopole. La première mesure sur laquelle on pense qu'il faut se pencher, c'est celle, bien évidemment, de la taxe sur le marché publicitaire, qui est sous-taxée aujourd'hui. Il y a plein de trous dans la raquette. Le niveau moyen, il est en dessous de 2,8%. C'est très peu dans une société qui veut amorcer ou accélérer la transition écologique. Donc, il s'agit de taxer pour que la pub soit plus chère et donc pour qu'il y en ait moins et qu'avec moins de pression commerciale, on le sait, certaines formes de consommation vont baisser. Donc, la taxer pour aussi produire des recettes. Avec le produit de cette taxe, il est possible de financer d'autres politiques, comme par exemple l'indépendance des médias ou l'accès des associations aux espaces médias.
Oui, parce que il y a un sujet dont on n'a pas parlé, c'est l'influence de la publicité sur les médias. Et là, il y a un vrai enjeu démocratique, là aussi.
Là, c'est un petit peu l'angle mort de l'analyse sur les enjeux des médias, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a un vrai problème vis-à-vis de la propriété des médias en France, et c'est un sujet qui est travaillé par des contributeurs tels Acrimed à notre rapport. Mais quid de l'impact de ces financements publicitaires? Aujourd'hui, il y a les chercheurs qui l'ont documenté, c'est un peu le bilan qu'on essaie de faire. Il peut s'agir parfois de retrait publicitaire suite à un article jugé hostile, mais ça, c'est la face émergée de l'iceberg qui cache l'autocensure. Après un retrait de financement publicitaire qui met à mal le modèle d'un média, combien de journalistes, de conseils de rédaction vont devoir s'autocensurer vis-à-vis de leur régie? On est sur des sujets un petit peu tabous, pas faciles à aborder dans la profession. Cela dit, il y a un vrai enjeu et les propositions, elles vont d'une part vers des réformes des aides à la presse. Aujourd'hui, en France, c'est une particularité française, il y a des aides à la presse importantes mais elles ne prennent quasiment pas en compte l'enjeu des financements publicitaires. Elles le prennent, mais c'est tout à fait marginal. Nous, on pense que ça doit être au centre, ça c'est une première chose. Et puis ensuite, on revient à l'idée de taxation. Si on taxe la publicité commerciale pour financer l'indépendance des médias, c'est le modèle en Suède qui marche très bien. Ça a été le modèle en France pour le secteur de la radio, où la taxe sur la publicité commerciale permettait de financer les radios associatives. Donc, c'est un modèle qui fonctionne et on pense qu'il faut revenir là-dessus pour effectivement libérer un petit peu les médias de cette poignée de très gros annonceurs qui, en fait, achètent de l'espace partout et quelque part ont cette forme d'influence sur la ligne éditoriale.
La présentation de votre rapport a été soutenue par trois députés, hein, Delphine Bateau, Dominique Potier et François Ruffin. Est-ce que ça veut dire que l'objectif de ce rapport, c'est une loi qui encadrerait la publicité davantage ?
Ça en fait partie. On veut mettre le débat sur la table de l'opinion publique, on veut politiser ce débat. La pub n'est plus un fait de société sur la question de est-ce qu'on est manipulé ou est-ce qu'elle est créative. C'est un fait politique, il y a des enjeux écologiques majeurs, il y a des enjeux de qui détermine les produits que l'on consomme. Donc, on voulait vraiment d'abord le mettre sur la table de l'opinion publique et dans un cadre institutionnel. Maintenant, effectivement, depuis une année, s'accélèrent les amendements divers et variés sur certains enjeux publicitaires et les députés qui ont soutenu aujourd'hui la sortie du rapport se sont illustrés sur ces sujets-là. Donc, il y a à court terme des propositions de loi qui sont possibles et on les accompagnera si nécessaire. Ensuite, il y a quand même des débats plus structurels qu'il va falloir prendre le temps de discuter, notamment celui de la régulation permanente des contenus. Aujourd'hui, le discours des entreprises n'est absolument pas régulé par les pouvoirs publics. Ces sujets-là, il va falloir un temps de débat peut-être plus important. En tout cas, nous, on sera derrière nos élus s'ils veulent se poser des questions sur ces aspects de régulation des discours ou encore les réformes économiques que j'évoquais tout à l'heure qui doivent attendre une loi qui permet de toucher au budget.
Eh bien donc, c'est le début d'un débat de société. Merci beaucoup, Renaud Fossard.
Merci à vous.
Le lien pour lire le résumé de votre rapport « La pub consomme la planète » est sur la page de l'émission.
On le subit, on le maudit, mais il poursuit, il envahit. Dans le métro, dans les journaux, à la radio, toujours ce mot.
Merci à François Porcheron pour la réalisation et à vous pour votre fidélité et vos nombreux messages. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, vous y découvrirez nos invités en vidéo. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve la semaine prochaine, même planète, même heure.
Pour qu'une starlette, une cigarette, une savonnette soit des vedettes. Pour l'éclairant, pour le néon, pour l'obsession, il faut ton nom.
Publicité, publicité.